qui a la main sèche ce matin ? Parce que je ne vous proposerai pas de crème Nivea. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le but. D'abord, on est content de revenir. Ça fait deux dimanches qu'on n'était pas là. Vous l'avez remarqué peut-être ? On vous a manqué un petit peu ? Ah, il y a une personne à qui j'ai manqué. Enfin, en tout cas, vous nous avez manqué. Alors, il y a deux semaines, nous étions à Mont-Saint-Barœul, l'église baptiste de Mont-Saint-Barœul, enfin, qui n'est plus baptiste parce qu'ils ne font plus partie de la fédération baptiste. Voilà, ça s'est bien passé. On était vraiment conduits par le Seigneur dans le partage de la parole de Dieu. Je pense que ça a secoué un petit peu l'église, mais c'était nécessaire. Et puis, ça a encouragé le pasteur de cette communauté. Et la semaine dernière, nous étions à Rumingem. Donc, pourquoi j'ai fait deux rendez-vous en même temps ? C'est tout simplement parce qu'au mois de mai, comme vous le savez, je n'étais pas très bien. Et je ne savais plus où j'en étais dans mon agenda. Et j'ai pris deux rendez-vous de suite, chose que je ne fais jamais, mais voilà. Ça explique un peu pourquoi nous étions là. Nous n'étions pas là pendant deux dimanches. Mais en tout cas, là, on est heureux d'être avec vous. On est heureux aussi parce que hier, les deux sœurs qui étaient avec moi à Denain, on a vécu une journée extraordinaire, vraiment, où on a senti et on a vécu l'action puissante du Saint-Esprit nous parlant et révélant dans nos cœurs. C'était des réunions pour les responsables de destinée du mouvement apostolique dans laquelle se trouvent l'église de Denain et l'église ESF de Waterloo. Et on a vraiment été touchés dans notre cœur. D'ailleurs, les deux enseignements seront au moins écoutés par les responsables. Responsables de groupe de maison, responsables de pôle. Et surtout, le deuxième enseignement sera obligatoirement écouté par les futurs accompagnants pastoraux. Obligatoire. Si tu n'as pas écouté, tu ne signes pas. C'est comme ça que ça marche maintenant. Non, mais très bonne formation, en tout cas pour les responsables. Et j'ai demandé qu'on puisse être réinvité d'autres fois. Sachez qu'on les accompagnera aussi dans une semaine de prière pour la région au mois de novembre. Je vous tiendrai au courant. Dorian fera l'annonce cette semaine, j'invertirai. On s'était dit, tiens, quand faire la prochaine réunion, la prochaine semaine de jeûne et prière, eh bien, on va se caler avec eux. Et le thème numéro un, ce sera la prière pour cette région, pour l'implantation d'églises dans cette région. Voilà, donc la main sèche. Donc, rentrez votre crème Nivea, c'est pas ça. Maintenant, je voudrais revenir un peu, je sais pas si c'est visible pour vous. Ouais, ça va, c'est bien. Le cycle du péché dans les livres des juges. Pour ceux qui étaient là il y a trois semaines, donc, j'avais enseigné et prêché sur le livre des juges et les méfaits d'un fonctionnement où Dieu nous demandait de faire et que nous ne faisons pas. Souvenez-vous ce qui a été dit en début de culte. Si tu obéis à la voix que l'Éternel, ton Dieu, te donne d'entendre, si tu obéis à ses commandements, je ne te frapperai pas des péchés. Et là, je disais dans le livre des juges, ce qui est fou, enfin fou et inconcevable, c'est que Dieu leur dit, vous allez, vous faites ça, 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 ils font tout le contraire de ce que Dieu leur demande de faire. Et que se passe-t-il ? Plutôt que de posséder l'endroit, de posséder totalement les promesses de Dieu dans ce pays, ils finissent par être esclaves des dieux de ce pays-là et des nations de ce pays-là. Et c'est souvent ce qui arrive aux personnes qui vivent dans le cycle du péché, qu'on retrouve dans le livre des juges. Regardez, ils avaient toujours le même cycle. Vous vérifierez dans le livre des juges, ils se révoltaient, ils n'obéissaient pas à la voix de Dieu, ils étaient opprimés par les peuples, l'oppression, la souffrance les amenaient vers la repentance, où ils disaient, oh pardon Éternel, nous avons péché, Dieu envoyait un libérateur et qu'il... un juge, donc, qui les amenait à la délivrance. Mais c'était cyclique. Ils étaient dans un cercle infernal, révolte, oppression, repentance, délivrance. Et dans tout ce cycle, vous pouvez vous rendre compte que les temps de bénédiction, les temps de restauration étaient ultra courts, voire inexistants. Sur une période qui s'écoule sur plusieurs siècles, on pourrait presque calculer en nombre d'années le temps réel où le peuple a été dans la paix, où le peuple a été béni, où le peuple a pu vivre sur la victoire remportée. Et beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, de croyants, disent « Moi, je suis enfant de Dieu », mais ils vivent dans ce cercle-là, dans ce cercle, si je puis dire, infernal du péché. Maintenant, je vais vous montrer ça, c'est un triste tableau qu'on rencontre dans le livre des Juges. Maintenant, je vais vous montrer un autre tableau. Le cycle de la bénédiction en Jésus-Christ, le salut. Voilà, d'un cercle infernal, Jésus veut nous faire entrer dans un cercle qui correspond aux réalités de son salut. Et regardez, un jour, une personne entend l'évangile est semé. Je me rapporte peut-être à la parabole du semeur, où Jésus dit « un semeur sorti pour semer ». Et une partie de la semence tomba le long du chemin, dans les rocailles, etc. Une autre partie fut volée, et une autre partie, même, il y a des épines qui viennent étouffer tout ça. Et puis aussi la bonne terre. Merci Seigneur. Le problème, c'est que ce que nous devons reconnaître, c'est quel est l'état de notre cœur qui reçoit la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Donc un jour, l'évangile est semé. Voilà, le but, c'est d'envoyer la parole dans la vie des gens. Pas de donner une certaine forme de philosophie. Non, le but de Dieu par Jésus-Christ, c'est que l'évangile arrive dans nos cœurs et qu'il soit reçu dans la bonne terre. Et quand il arrive dans la bonne terre, le semeur vous dira, on parle beaucoup de ça actuellement, que maintenant il va falloir faire attention. Enfin, il faudra, on faisait attention, mais maintenant les agriculteurs ne pourront plus jeter de pesticides à 5 mètres, je crois. C'est un truc de fou, hein, comme si 5 mètres, ça allait... Enfin bref. Donc après, il faut surveiller, soigner. Quand Dieu envoie la parole dans la vie de quelqu'un et qu'il voit que ça commence à pousser, j'espère que vous êtes au moins dans cette situation-là. Quand la semence commence à pousser, que fait-il ? Il surveille et il soigne. Il envoie même l'agriculteur à un terrain préventif. En réalité, ça, c'est vraiment important. Et lorsque Dieu prend une personne, il veut absolument la soigner et soigner ce qui a été mis dans sa vie, protéger la parole qui a été semée en lui ou en elle. Et Dieu, que fait-il ? Parfois, il y a des terrains qui sont beaucoup plus difficiles et parfois même, il y a des graines porteuses de maladies. C'est peut-être ce que nous sommes parfois. Et Dieu veut vraiment amener la délivrance et la guérison dans la vie de son peuple. Ça fait partie du plan du salut. Ça fait partie de la bénédiction dans laquelle Dieu veut nous amener. Et que fait-il après ? Il voit que ça grandit. Et après avoir soigné, il s'aperçoit que la tige de blé commence à se former, à porter. Il y a des grains verts qui arrivent et il voit la force et la maturité arriver. Mais vous n'avez jamais vu, tu ne me diras pas le contraire Manu, un agriculteur commencer à faire les moissons quand le grain est vert. Il amène les choses à maturité. Et que faut-il pour qu'un grain arrive à maturité ? Il faut que ce grain soit mis à la lumière et ensoleillé. C'est-à-dire que la lumière de Dieu règne sur sa vie. Avez-vous déjà vu le mouvement d'un tournesol ? Le tournesol, lorsque la nuit tombe, il se met la tête en bas. Et lorsque le soleil se lève, il se tourne vers l'est, vers là où le soleil se lève. Et toute la journée, il suit. C'est ce qui l'amène à recevoir toute l'énergie. Et Dieu veut que son peuple soit un peuple qui croisse et qu'il ait de plus en plus de force et de maturité. Le plan du salut, ce n'est pas juste je sème, je guéris, je délivre et j'amène à maturité. Et plus loin encore, Dieu, c'est le temps de la récolte, c'est le temps de la bénédiction, c'est un cycle que Dieu veut. Et là, vous allez voir commencer à porter du fruit, vous commencez à avoir des personnes qui vont porter des dons, qui vont porter des onctions, des ministères, des services dans l'Église. Et Dieu veut un peuple qui serve, un peuple qui soit suffisamment fort pour supporter le plus faible à côté de lui. Et enfin, chose que vous devez comprendre et saisir, c'est que Jésus a dit dans la parabole du semeur, un grain en donne 10, 50, 100. C'est-à-dire que ce que tu es est appelé à être multiplié dans la vie des autres. Ce que Dieu a semé en toi est appelé à être distribué dans la vie des gens qui vont être eux-mêmes touchés un jour par l'Évangile. Je ne sais pas où vous en êtes là. Peut-être que tu es juste dans un temps où Dieu est en train de semer. Peut-être que tu es dans un temps où tu dis « Oh, j'ai encore beaucoup de maladies, j'ai encore beaucoup de liens où je n'arrive pas à m'en sortir. » Peut-être que tu te dis bah, « Tiens, moi je suis dans une phase de croissance, je grandis avec Dieu. » Peut-être même que tu te dis bah, « Tiens, moi je vois des dons, des choses venir en moi et j'ai envie que ça soit au bénéfice des autres. » Et d'ailleurs, tu remarqueras que derrière, peut-être que tu es dans une phase où tu dis « Oh là, je sens le grain en moi arriver à maturité. » Et peut-être même que tu portes beaucoup plus de fruits que cela. Tu es même celui qu'on est en train de couper, on est en train de séparer le grain pour que ce grain puisse être semé dans la vie des gens. Si tu es arrivé là, tu as atteint le but du salut de Dieu pour toi. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à semer l'Évangile dans la vie des gens, on n'a pas atteint le but de la maturité. On n'a pas atteint le cycle. La question que je me pose, moi, c'est dans quelle partie suis-je ici ? Posez-vous la question. Et sachez une chose, c'est que tout cela est accompli uniquement en Christ, par l'œuvre de Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tout cela, c'est le don de Dieu pour son peuple. Et ce n'est pas par mes propres capacités, mes propres forces, parce que comme ça, je ne suis pas capable et je n'ose même pas dire « je me glorifie de ce que je suis ». Tout ce que tu es vient de Dieu. Tout ce que tu fais vient de Christ. Et quand il est dit qu'il a tout pleinement accompli, il l'a accompli sur la croix pour que tu puisses posséder cela et que les gens qui sont autour de toi possèdent les réalités du royaume dans leur vie. Et sachez une chose aussi, c'est que le diable cherche et il fait la guerre à ce cercle vertueux, à ce cycle vertueux. Le diable cherchera à briser toute flèche ou toute étape dans la vie des chrétiens. Pourquoi ? Parce que son but, c'est d'amener avec lui, au jugement éternel, un maximum de personnes avec lui. C'est le seul côté généreux de Satan. Il veut amener toute l'humanité là où il est tombé. Et Dieu dit, j'attends un peuple qui soit capable de protéger et de se laisser modeler dans chaque phase. Par exemple, quand Dieu sème l'Évangile, la parole de Dieu, et qu'il veut t'amener vers une forme de mini-croissance où il va commencer à surveiller. Qu'est-il dit dans la parole du semeur ? La parabole du semeur, il est écrit que les soucis de la vie viennent étouffer. Pose-toi la question, est-ce que les soucis de la vie, aujourd'hui, affectent ce que Dieu envoie dans ta vie ? Et s'il y a quelqu'un qui ose dire que ce n'est pas vrai, je le rencontre, vraiment. Combien de personnes remettent en question ce qui a été semé dans leur cœur à cause des soucis de la vie ? Exemple, quand tu veux, Satan cherchera toujours à t'empêcher de croître. Il touchera à quoi ? À votre avis ? Il amènera le péché dans ta vie. Il va amener, parce qu'il sait que le péché, c'est la maladie qui rentre et qui t'empêche d'arriver à maturité. Il est écrit dans Josué chapitre 7, et Dieu dit, par la bouche de Josué, enlevez tout interdit. Parce que c'est parce que vous avez laissé l'interdit que je ne peux pas me tenir au milieu de vous. Clairement, Satan sait que le péché dans nos vies affecte la présence de Dieu, empêche réellement la présence de Dieu. Et je ne dis pas ça avec accusation, mais c'est une réalité. J'ai reçu dernièrement, désolé d'en reparler, mais un bouquin sur un article sur une étude qui avait été faite sur des hommes de Dieu qui se vautraient dans le péché. Sur tous les pasteurs qui s'étaient vautrés dans le péché, il y en avait à peu près 60-70%, je ne sais plus. Mais tous diront qu'à un moment donné, le péché dans leur vie a affecté l'action et la puissance de Dieu dans leur ministère. Autre exemple, Satan empêchera une personne de méditer et de lire la parole de Dieu. Il ira dire dans la vie des gens, le dimanche matin, ça te suffit. En réalité, il empêchera la personne de se fortifier dans le Seigneur à travers sa parole. Autre chose, mettez un grain seul dans un champ et mettez-le en plein milieu d'un champ du nord de la France où c'est bien venteux. Je vous mets au défi de voir un grain, un épi de blé arriver un jour à maturité. Vous savez pourquoi ? Parce que le vent va le casser. La pluie, les éléments extérieurs vont le mettre vraiment à plat, le courber et le pourrir dans la terre. Une des choses que Satan utilise, c'est l'isolement. Et il veut faire croire à une personne qu'elle peut vivre sa foi seule. C'est entièrement faux. Par contre, quand je vois le vent arriver sur le champ de blé et qu'il y a un mouvement comme ça, je trouve ça extraordinaire. Regardez de près, ça m'arrive parce que je promène mon chien dans les champs derrière. Quand je vois ça, je vois en réalité l'ensemble se lier presque et empêcher de se courber. Certes, il y a une action des éléments extérieurs, mais qui n'affecte pas la croissance. Autrement dit, c'est ensemble qu'on grandit. Et en fait, autre chose, il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'ils ont récolté, c'est parfait, j'ai rempli mon silo à grains. Donc on se satisfait de ce que nous sommes. On se dit, oh, je fais des belles choses dans l'Église, et je me satisfais. N'oublie jamais que tout ce que tu reçois, tu le reçois pour semer. Rien de ce que tu reçois ne doit être gardé pour toi. Ça doit servir à semer dans la vie des gens, à nourrir les gens, à faire du bien aux gens. J'ai vu de personnes, moi, se satisfaire de leurs dons, se satisfaire de leur ministère, et de se dire à un moment donné, « Oh, je suis un grand pasteur, je suis un grand prophète, je suis un grand évangéliste. » Non, il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui servent le Seigneur et qui arrivent à maturité et qui, dans la vie desquels, on peut prendre des graines et les jeter dans la vie des gens. Voilà ce qu'il y a. Voilà la réalité du royaume. J'ai plus de piles. Qui peut m'aider ? Ah si, c'est bon. Rappelez-vous, je vous disais la semaine dernière, enfin il y a 3 semaines, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? C'est en Christ qu'on reçoit ces choses. Sachez que tout ce que vous êtes en tant que personne, Dieu veut amener votre vie à être capable un jour de récolter des choses et faire du bien dans la vie des gens. Et il veut tout vous donner pour arriver à ce but. C'est le plan du salut pour chacun de ses enfants. Et toute pensée contraire est totalement démoniaque, totalement satanique. Que les choses soient claires. Dieu veut faire de toi quelqu'un en qui il va donner toutes choses pour faire du bien aux autres. Et Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et la preuve en est, c'est que lorsque Jésus vient sur la terre, il vient pour rompre le cercle infernal, le cercle de la destruction, le cercle de la malédiction, pour transformer le cercle de ce cercle-là en un cercle de bénédiction pour l'humanité. Et ça, il le fait par la puissance de son sacrifice à la croix. Maintenant, je vais vous donner un exemple. J'en viens à la main sèche. Un exemple où Jésus va rompre, va transformer un cercle de malédiction en cercle de bénédiction. Un jour, il est dans une synagogue. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées. Jésus connaît les pensées des cœurs. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Est-ce que vous regardez ce qu'il est en train de faire? Il ne prend pas, il ne dit pas, « Sois guéri de ta main sèche. » Il dit, « Viens ici, mon gars. Tiens-toi au milieu parce que je veux que tout le monde voit ce que je vais en train de faire. Le cercle qui te paralyse, le cercle qui t'amène dans la destruction, dans le péché, je vais le transformer en cercle de bénédiction. Regardez bien, vous tous qui regardez, hommes religieux, hommes faux semblants, je vais montrer qui je suis. Je suis celui qui libère et qui change la vie de quelqu'un. » Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant les regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et l'homme lève sa main. Et sa main fut guérie. Jésus n'impose même pas les mains. Jésus ne fait pas de prière. « Étends ta main. » « Étends ta main, fils. » Parce que ce qui te paralyse est désormais vivant. Ce qui t'a amené à ne pas pouvoir agir, je le transforme en action. Vous allez voir derrière ce que représente la main. Ils furent tous remplis de fureur. C'est étonnant. Je vois un miracle et je me mets en colère. Voilà le principe de l'homme religieux. Ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. C'est une belle histoire, non? Et regardez l'homme. Moi, je me mets à la place de cet homme. Je ne sais pas si c'est de naissance, d'ailleurs. Visiblement, Jésus s'en fiche complètement. Il ne sait pas si c'est suite à un péché. Jésus s'en fiche complètement. Nous, des fois, on veut tout savoir. Oh, c'est parce que tu as fait ça. On passe notre temps à savoir pourquoi. Non, Jésus est en train de regarder cet homme. Et c'est le jour du sabbat. Et chaque sabbat, donc chaque samedi, il va à la synagogue. Et chaque samedi, alors que vous avez les gars qui sont comme ça, en train d'adorer, que fait-il, lui? La main droite, pardon. Lui, il ne peut lever qu'une main. Il dit une partie de lui. Cet homme, il y a une partie de lui, physique, spirituelle, interne, on ne sait pas, elle est paralysée et le rend incapable de devenir un adorateur en esprit et en vérité. Incapable, il est paralysé, sec, il n'y a pas de vie en lui. Que représente la main? La main est l'instrument de la plupart des travaux. C'est l'emblème du travail, la main. Elle est aussi le symbole du caractère du disciple. En général, ce que ma main fait, c'est ce que je suis. Si tu es fainéant, ta main sera là. Si tu es actif, ta main agira. Si tu es colérique, ta main sera comme ça. Si tu es aimant, ta main sera comme ça. Est-ce que vous comprenez que la main représente ce que nous sommes en réalité? Elle représente une part de ce que nous donnons. La main, c'est la main qui donne, mais c'est aussi la main qui reste dans sa poche. C'est la main égoïste. C'est la main qui pense qu'à elle-même. C'est la main qui reste au chaud. Elle est le résultat aussi de la tête qui ordonne d'exécuter. Alors, sauf si on a des problèmes dans ce domaine-là, mais en général, quand mon cerveau dit « mets ton doigt dans ton nez », mon doigt se met dans le nez. Elle est la capacité de bénir la main, mais elle a aussi la capacité de maudire. Quand je pose ma main sur quelqu'un, je le bénis, comme Jacob a béni ses fils. La main, c'est le signe même de la bénédiction. Cet homme était-il capable de bénir ? De bénir Dieu ? De bénir ses frères ? Ou de bénir sa famille ? On ne sait pas. La main aussi, c'est le symbole de l'adoration, de la prière. J'élève les mains vers le Seigneur. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Je prie et je demande, dit l'apôtre Paul, que les hommes élèvent les mains vers Dieu et qu'ils prient. Les mains pures. Cet homme avait peut-être une main partagée, peut-être que la main gauche était capable d'obéir à Dieu. Peut-être qu'elle était capable de prier la main purifiée, puis il avait son autre main qui était paralysée parce que cet homme était peut-être lié par un péché, par une addiction ou autre chose. Voyez ce que représente la main. Et les scribes et les pharisiens, que représentent-ils ? Ils représentent la religiosité. C'est un symbole puissant à toute action du Saint-Esprit. Et vous voulez que je vous dise, je vais vous faire une confession sur vous-même. Il y a un homme religieux qui, oui, une femme, parce qu'il n'y a pas que les hommes, il y a un religieux qui sommeille en chacun de nous. Eh oui. Symbole puissant à toute action du Saint-Esprit. Vous savez, quand quelqu'un dit « Moi, je ne dirai pas ou je ne confesserai pas un péché », c'est un homme religieux. C'est un homme à la main paralysée. Quand quelqu'un dit « je vais aller prier avec quelqu'un pour lui dire « Mais je lui tairai une partie de ma vie », non, c'est la religiosité qui nous pousse à nous taire. Ce n'est pas la forme, souvent l'homme religieux dit. Ce n'est pas le moment, l'homme religieux dit. Ce n'est pas la personne qu'il faut, l'homme religieux dit cela. Nous pouvons le faire par nos propres forces et nos propres moyens. Voilà ce que dit l'homme religieux. Et Jésus, lui, parce que c'est intéressant de voir comment agit notre Seigneur. Il vient rétablir le cycle de bénédiction en montrant que tout ce qui nous paralyse, je dis bien tout, ne nous donnera-t-il pas tout en lui ? Tout ce qui nous paralyse pour devenir un adorateur doit être libéré par sa puissance. Tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une paralysie dans ta vie, qu'elle soit physique, qu'elle soit intérieure, sache une chose, c'est que dans le cœur du Père, il veut libérer tout ce qui te paralyse. Tout. Et il n'y a pas de grande chose qui soit au-dessus de Dieu. Tout. En dénonçant aussi l'esprit de religiosité qui cherche à s'opposer à toute forme de guérison et de libération. Dans quel domaine tu es paralysé ? On peut avancer, l'équipe de louanges. Dans quel domaine suis-je paralysé ? Je vais vous faire une petite confession. Vous êtes d'accord ? Il y a environ 3 semaines, nous étions à la réunion de prière ici et j'ai partagé ce passage. Il y a une sœur qui a déclaré qu'elle était paralysée par rapport à quelque chose. Elle a dit « Je renonce à cette paralysie, je te demande Seigneur d'agir dans ma vie ». Et moi, en écoutant cette sœur prier, j'ai dit « Seigneur, mais moi, qu'est-ce qui me paralyse ?» Parce que des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est paralysé par des choses. Les gens voient plus facilement dans nos vies que nous ne voyons dans la nôtre. Et puis ce jour-là, je me souviens que on était en train de redémarrer l'usine à mon travail dans la journée de jeudi. Et ça ne s'était pas vraiment bien passé l'après-midi, mais on avait réussi tant bien que mal. Et j'avais eu beaucoup d'angoisse pendant cette journée, parce que c'est toujours la pression du travail, vous savez, il faut des résultats, il faut démarrer, on perd de l'argent, enfin, voilà ce qu'on entend tout le temps. Et j'ai de l'angoisse en moi. Et ça m'énervait de ne pas maîtriser, parce que j'avais laissé l'installation entre les mains du chef de car, mais j'avais vraiment des craintes pour la nuit. Et ce soir-là, Dieu ne m'a pas directement parlé. Je rentre à la maison, je regarde le téléphone, ils ne m'ont pas appelé, je me couche. Je me réveille le lendemain, à 2h du matin pour faire mon petit pipi de la nuit. Eh oui, je fais pipi la nuit. Pas au lit, hein, dans les toilettes. Et là, je regarde mon téléphone. Et ils m'ont appelé. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Je pose mon téléphone. Je dis, je résisterai. Et en fait, je n'ai pas résisté. Je les ai rappelés. Et là, ils m'ont dit, ça ne va pas du tout, Bruno. On n'arrive pas à démarrer le brûleur. On ne s'en sort pas. Alors, je résiste encore. Et je retourne au lit. J'empêche Marie de dormir pendant 1h30. Et à 3h30 du matin, je me dis, je ne peux pas. J'y vais. Et là, je prends ma voiture. Je suis sur la route. Et là, je commence à pleurer. Je dis, Père, pourquoi tu permets ça ? T'es mon papa, quoi. Pourquoi tu me permets que j'ai autant de difficultés ? Et là, le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu as prié hier soir ? Qu'est-ce que tu m'as demandé, Bruno ? Tu m'as demandé ce qui te paralysait dans la vie. Je te le montre maintenant. Et là, clairement, le Seigneur me montre que tout ce que je ne maîtrise pas, techniquement, me paralyse. Je peux vous dire, et je vous le confesse, que dans les phases de gros problèmes à mon travail, j'étais incapable de prier. Incapable. C'était là, et la prière ne sortait pas de mon... Et là, le Seigneur m'a dit, je dis, comment je peux faire, Seigneur ? Je suis dans le désarroi, là. Je ne sais pas quoi faire. Et là, le Seigneur, vous savez ce qu'il me dit ? Loue. Adore. Alors, je mets la musique. Et j'ai mis ce chant. Tu frayes un chemin, Seigneur. Et j'ai déclaré que Dieu était le Dieu des miracles. Et j'ai demandé, pas simplement de s'occuper de mon travail, ce n'est pas ça que j'ai demandé. J'ai dit, Seigneur, j'ai un problème, je veux que tu guérisses. Je veux que tu délivres là le cœur de ton enfant. Et j'ai loué et adoré pendant 1 heure. Ce jour-là, j'ai abdiqué. Et ce jour-là, je n'ai pas vécu un temps de louange comme celui-là, depuis des années. La présence de Dieu était palpable. Et je sentais vraiment quelque chose venir en moi et extraire. Je n'arrive pas à vous expliquer. Arrivé au travail, j'étais en paix, comme je ne l'ai jamais été depuis des années. Alors que d'habitude, je montais directement en salle de car, je suis passé par mon bureau. Je ne me suis même pas mis en tenue. J'étais me faire un petit café. Je suis monté avec mon petit café. J'espère que mes collègues de boulot verront ce message un jour. Et là, je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait, les gars ? Ben Bruno, on a fait ça, 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 comme toi hier. Je vous promets que j'ai fait ça. Je lui dis, ben hier, j'ai fait ça. 4 clics, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Vous savez ce qui s'est passé ? Le brûleur s'est mis en route. Il fraye un chemin dans nos cœurs pour nous libérer. Il fraye un chemin pour te libérer. Et le chemin qu'il a accompli, il ne l'a pas frayé aujourd'hui. Il l'a accompli il y a 2000 ans sur la croix. Il a frayé un chemin pour que tout le cercle de bénédiction soit rétabli dans ta vie. Pour que tu puisses vivre la plénitude de Dieu, la plénitude de sa présence, la plénitude de sa vie. Voilà, il l'a accompli sur la croix à Golgotha. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend de toi ? Tiens-toi au milieu de cette assemblée. Lève-toi ! Est-ce que tu vas continuer à être paralysé ? Est-ce que tu vas continuer à revenir chaque sabbat ? Est-ce que tu vas revenir chaque dimanche ? Toujours avec la même paralysie ? Alors que Jésus est en train de te dire qu'il veut te rendre la vie à ce qui est sec. Il veut ramener la vie à ce qui est paralysé. Il veut faire de toi un homme, une femme qui un jour, il dira, voilà, le blé est mûr. Ça va être le temps de la moisson. Il va te répandre parmi ce monde et tu vas être source de bénédiction pour ce monde. Voilà ce que Jésus veut faire de toi. Prions, étendons nos mains. Ce matin, il y a une personne, une femme, qui a des problèmes ici. Là, je ne rentre pas dans les détails. Et Dieu dit, j'ai vu ta souffrance. Je vois combien ça t'affecte. Et ce matin, je veux te libérer, je veux te guérir. Lève-toi, lève les mains et demande la guérison. Hier, pendant le temps de louange, je pensais que c'était pour les personnes de là-bas. Le Seigneur m'a montré des arbres, des troncs d'arbres. Et il y a eu des coups de hache sur ces troncs qui avaient attaqué l'écorce. Et je voyais un peu, vous savez, la sève, enfin le, c'est ça la sève à l'intérieur. Je voyais les éléments de l'arbre à l'intérieur qui avaient été touchés, affectés. Et Dieu m'a dit d'une manière claire, il y a plein de personnes qui ont mal au dos. Et ce n'est pas simplement physiologique, ce sont des coups qu'on a mis dans ta vie. Des coups qu'on a mis en toi. Parfois, c'était un coup de couteau, comme on fait pour graver sur un arbre. Il y a des marques de l'ennemi dans ta vie. Il y a aussi parfois des coups de hache, parce qu'on a voulu abattre qui tu étais. On a voulu t'empêcher d'être celui qui devait porter du fruit un jour pour la gloire de Dieu. Et Dieu est en train de dire, je veux guérir cela. Je veux amener la guérison dans ta vie. Je veux amener la libération dans ta vie. Je veux que tu sortes d'ici libéré de ta douleur au dos. Prions. Je vous invite à vous lever. Qu'est-ce qui te paralyse ? Qu'est-ce qui te paralyse ? Dis-le ! Proclame-le au Seigneur ! Confesse-le ce matin ! Je suis paralysé par ça. Je suis paralysé par une addiction. Je suis paralysé par la honte. Je suis paralysé par la pornographie. Je suis paralysé par plein de choses. Je suis paralysé par l'alcool. Je suis paralysé par le tabac. Je suis paralysé par le rejet. Je suis paralysé par plein de choses à l'intérieur de moi. Peu importe, tu es paralysé physiquement. Peu importe, Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui libère. Et il amène la libération dans la vie de son peuple ce matin. C'est le jour où Dieu veut te guérir de sa paralysie. Je vous invite à lever les mains. Pas comme un signe religieux, mais faites comme cet homme. Faites comme cet homme. Et s'il vous plaît, laissez, faites mourir l'homme religieux. J'étends les mains vers toi, Père. Père, j'étends les mains vers toi. Père, je te remets ma vie. Père, viens libérer ton peuple. Comme j'aurais voulu être ce jour-là. Le jour où tu as guéri cet homme, Seigneur. Mais tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as accompli sur la croix, c'est une réalité pour chacun de tes enfants aujourd'hui. Père, guéris cette femme au niveau de ses entrailles. Père, guéris tous ceux et toutes celles qui ont des douleurs dans leur dos. Viens réparer tout ce que l'ennemi a accompli, a fait pour les détruire, Père, s'il te plaît. Père, tu es le libérateur. Père, vois notre misère. Père, vois notre faiblesse. Père, vois ce qui nous lie dans nos prières. Père, vois ce qui nous lie dans notre adoration. Et viens délivrer ton peuple, Seigneur. Viens guérir nos mains. Viens guérir les mains de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus.